Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Chapitre 7. Coupure du Daily Telegraph, collée dans le journal de Mina Murray. Suite. Whitby, 9 août. Les conséquences de l'arrivée inattendue de ce bateau étranger, pendant la tempête de la nuit dernière, sont presque plus étonnantes que le fait lui-même. On sait à présent que ce petit bâtiment est russe, qu'il vient de Varna et qu'il s'appelle le Déméter. Il est presque entièrement lesté de sable, n'ayant qu'une cargaison peu importante, des caisses remplies de terreau, expédié à l'adresse d'un solliciteur de Whitby, M. S. F. Billington, 7 The Crescent, qui, dès ce matin, est venu à bord prendre réglementairement possession des marchandises qu'on lui envoyait. Le consul de Russie, de son côté, après avoir signé la charte partie, prit officiellement possession du bateau et remplit toutes les autres formalités. À Whitby, aujourd'hui, on ne parle que de l'étrange événement. On s'intéresse aussi beaucoup au chien qui a sauté à terre dès que la goélette eut touché le rivage. Presque tous les membres de la SPCA, qui est fort influente ici, aurait voulu se faire un ami de cette bête. Mais au désappointement général, on ne l'a pas retrouvé. Peut-être le chien a-t-il été si effrayé qu'il s'est sauvé vers les Landes, où il se cache encore. Certains redoutent cette éventualité et y voient un réel danger, car l'animal, disent-ils, est évidemment féroce. De bonne heure, ce matin, un grand chien, appartenant à un marchand de charbon qui habite près du port, a été trouvé mort sur la route, juste en face de la maison de son maître. Visiblement, il s'était battu contre un adversaire puissant et cruel, car il avait la gorge véritablement déchirée et le ventre ouvert comme par des griffes sauvages. Quelques heures plus tard, l'inspecteur du ministère de Commerce a bien voulu me permettre d'ouvrir le journal de bord du Déméter, qui fut régulièrement tenu jusqu'à 3 jours d'ici. Mais il ne contenait rien d'intéressant, hormis ce qui concerne les pertes humaines. En revanche, le rouleau de feuilles de papier trouvé dans la bouteille et que l'on a produit aujourd'hui à l'enquête offre le plus haut intérêt. Pour ma part, je n'ai jamais eu connaissance d'un récit plus étrange. On m'a permis de le transcrire ici à l'intention de mes lecteurs. J'omets simplement les détails techniques. À lire ces feuillets, il semble que le capitaine ait été pris d'une sorte de folie avant même d'avoir atteint le large et que le mal n'ait fait que s'aggraver pendant le voyage. On devra se rappeler que j'écris sous la dictée d'un secrétaire du consul de Russie qui me traduit le texte. Thank you. Journal de bord du Déméter, de Varna à Whitby. Des événements si extraordinaires ont eu lieu jusqu'à ce jour, 18 juillet, que je veux désormais tenir un journal jusqu'à notre arrivée à Whitby. Le 6 juillet, nous avons terminé le chargement du bateau, sable et caisses remplies de terre. À midi, nous prenions la mer. Vent d'est, assez frais. L'équipage est composé de 5 hommes, 2 officiers en second, le cuisinier et moi, le capitaine. Le 11 juillet, à l'aube, nous entrions dans le Bosphore. Les employés de la douane turque sont montés à bord, bakchich, tous très corrects. Repartis à 4 heures de l'après-midi. Le 12 juillet, passé les Dardanelles. Encore des agents de la douane et bakchich de nouveau. Tout cela s'est fait très vite. Ils désiraient nous voir partir au plus tôt. Le soir, nous passions l'archipel. Le 13 juillet, nous arrivions au cap Matapan. L'équipage semblait mécontent. On eût dit que les hommes avaient peur de quelque chose. Mais aucun ne voulait parler. Le 14, je commençais à être assez inquiet à leur sujet. Je savais que je pouvais compter sur ces hommes. J'ai souvent navigué avec eux. Mon second ne comprenait pas plus que moi ce qui se passait. Les hommes lui dirent seulement, en se signant, qu'il y avait quelque chose. Il se mit en colère contre l'un d'eux et le frappa. À part cela, aucun incident. Le 16 au matin, le second vint me dire que l'un des hommes, Petrovski, manquait. Chose inexplicable. Il a pris le car à bâbord à 8 heures hier soir, puis a été relevé par Abramov. Mais on ne l'a pas vu qui allait se coucher. Les autres étaient plus abattus que jamais. À les entendre, ils redoutaient depuis quelque temps une disparition de cette sorte. Mais quand on les questionnait, ils persistaient à répondre seulement qu'il y avait quelque chose à bord. Le second, finalement, s'est fâché. Il redoutait une mutinerie. Le 17 juillet, hier, Olgaren, un matelot, est venu me trouver et m'a confié avec effroi qu'il pensait qu'un homme étranger à l'équipage se trouvait à bord. Il m'a raconté que, pendant son quart, alors qu'il s'abritait du gros temps derrière le rouf, il avait aperçu un homme grand et mince qui ne ressemblait à aucun des nôtres, apparaître sur le pont, se diriger vers la proue et disparaître. Il voulut le suivre, mais quand il arriva à l'avant, il ne vit personne et toutes les écoutilles étaient fermées. Il était encore en proie à une panique quasi superstitieuse et je crains que cette panique ne gagne tout l'équipage. Pour les rassurer tous, aujourd'hui, je vais entièrement fouiller le bateau. Je viens de rassembler les hommes et je leur ai dit que, puisqu'ils croyaient qu'il y avait un inconnu à bord, nous allions le chercher partout, de la proue à la poupe. Le second me désapprouva, s'écria que c'était ridicule de céder ainsi à des propos stupides et que cela ne pouvait que démoraliser davantage ceux qui les tenaient. Il ajouta qu'il s'engageait à les faire revenir à plus de sagesse en se servant d'une barre de cabestan. Le laissant au gouvernail, je partis avec les autres, lanterne à la main, fouiller le bâtiment. Nous ne négligeâmes pas le moindre coin où un homme eût pu se cacher. Nos recherches terminées, chacun se sentit soulagé et retourna joyeux à sa tâche. Le second me regardait de travers, mais il ne me dit rien. 22 juillet. Gros temps depuis 3 jours, et tous ont fort à faire à s'occuper des voiles. Pas le temps d'avoir peur. Il semble même qu'il n'y pense plus. Le second aussi est à nouveau de bonne humeur. Féliciter les hommes de leur bon travail par cette houle, passer Gibraltar et entrer dans le détroit. Tout va bien. 24 juillet. Décidément, la malédiction nous poursuit. Un homme déjà manquait et, en entrant dans la baie de Biscay toujours par gros temps hier soir, nous nous sommes aperçus qu'un autre avait disparu. Comme le premier, il venait d'être relevé de son car et on ne l'a pas revu. De nouveau, c'est la panique générale. Les hommes font leur car deux à deux car ils ne veulent plus se trouver seuls. Le second s'est mis en colère. Je crains quelque éclat, soit de sa part, soit de la part de l'équipage. 28 juillet. Un véritable enfer, depuis 4 jours. Le vent souffle en tempête. Personne ne dort plus. Tout le monde est épuisé. Aucun des hommes n'est plus capable de faire son quart. Le second officier s'est proposé pour faire le quart et tenir la barre en même temps afin que les hommes puissent se reposer quelques heures et essayer de dormir. Le vent s'apaise un peu, mais les vagues sont encore très fortes. Toutefois, on ressent moins leurs secousses. Le bateau est plus stable. 29 juillet. Autre tragédie. Cette nuit, un seul homme à la fois a pris le quart, étant donné leur fatigue à tous. Quand le matelot qui devait le remplacer le matin est monté sur le pont, il n'y a trouvé personne, excepté l'homme à la barre. À son cri de terreur, nous sommes tous accourus sur le pont, mais nos recherches ont été vaines. Nous n'avons plus de lieutenant. Nouvel affolement de l'équipage. Avec le second, j'ai décidé de nous armer et d'attendre les événements. 30 juillet. Dernière nuit, sans doute. Heureux que nous approchions de l'Angleterre. Beau temps, toutes les voiles sont déployées. Je me suis couché, n'en pouvant plus. J'ai dormi profondément. Mais le second m'a réveillé en m'annonçant que les deux hommes de quart avaient disparu, de même que celui qui tenait la barre. Nous ne sommes plus que quatre à bord. Moi, le second et deux matelots. 1er août. Deux jours de brouillard et pas une voile en vue. J'avais espéré qu'une fois dans la Manche, nous pourrions recevoir du secours. Comme il nous est impossible de manœuvrer les voiles, je n'ose pas les faire amener, de crainte que l'on n'arrive plus à les déployer, nous devons courir vent arrière. On dirait que nous sommes chassés vers un terrible destin. Le second est maintenant plus découragé qu'aucun des deux matelots. Il est dur de tempérament, mais on dirait que toute son énergie s'est retournée contre lui-même et le ronge de l'intérieur. Les deux hommes, eux, ne songent même plus à avoir peur. Ils continuent simplement à travailler avec patience, s'attendant au pire. Ils sont russes, le second est roumain. 2 août, minuit. Endormi depuis quelques minutes à peine, je viens de m'éveiller en entendant un cri poussé, m'a-t-il semblé, à mon hublot. Mais il m'a été impossible de rien voir à cause du brouillard. En toute hâte, je suis monté sur le pont où j'ai rencontré le second qui accourait, lui aussi. Il me dit avoir également entendu ce cri, mais que, arrivant presque aussitôt sur le pont, il n'a pas vu l'homme qui était de quart. Encore un disparu. Que le Seigneur veuille nous protéger. D'après ce que dit le second, nous sommes maintenant dans la mer du Nord, et seul Dieu peut nous guider à travers ce brouillard qui semble avancer vers nous. Mais Dieu semble nous avoir abandonnés. 3 août. À minuit, j'ai voulu aller relever l'homme qui tenait la barre, mais quelle ne fut pas ma stupeur. Personne n'était au gouvernail. J'appelais le second qui apparut presque aussitôt. Il avait l'œil hagard, l'air véritablement affolé, et je craignis qu'il ne fût en train de perdre la raison. S'approchant de moi, il me parla à l'oreille comme s'il craignait que le vent lui-même l'entendît. La chose est ici, j'en suis sûr maintenant. La nuit dernière, je l'ai vu. Ça ressemble à un homme, grand et mince, affreusement pâle. Il était à la proue et regardait vers le large. Je me suis glissé derrière lui et j'ai voulu lui donner un coup de couteau, mais mon couteau est passé à travers, comme s'il n'y avait eu là que de l'air. Tout en parlant, il avait sorti son couteau de sa poche et le maniait avec des gestes brusques, comme s'il voulait déchirer l'espace. « Mais il est ici, » reprit-il, « et je le trouverai. Dans la cale, peut-être dans une des caisses. Je vais les ouvrir, l'une après l'autre, et je verrai. Vous, tenez la barre. » Puis, me jetant un regard de connivence, il mit un doigt sur la bouche et descendit. Le vent se faisait de plus en plus fort, et je ne pouvais pas quitter le gouvernail. Bientôt, je vis mon second remonter sur le pont avec un coffre à outils et une lanterne, puis disparaître de nouveau par l'écoutille de l'avant. Il est fou. Il divague, et ce serait en vain que j'essaierais de le raisonner. Qu'il fasse ce qu'il veut des caisses. Il ne court aucun risque de se blesser. Je reste donc ici à m'occuper du gouvernail, tout en prenant ses notes. Tout ce que je peux faire, c'est d'avoir confiance en Dieu et attendre que le brouillard se dissipe. À ce moment-là, si je peux me diriger vers un port, quel qu'il soit, par ce vent de tempête, j'amènerai les voiles et ferai des signaux de détresse. Hélas, je crains bien que tout soit fini maintenant. À l'instant même où je commençais à espérer que le second se calmerait, car je l'avais entendu dans la cale donner des coups de marteau, un brusque cri d'épouvante me parvint par l'écoutille et notre homme fut projeté de la cale sur le pont tel un boulet de canon, mais c'était un fou furieux, les yeux égarés et le visage convulsé par la terreur. « au secours » criait-il en promenant ses regards sur le mur de brouillard. Puis, sa frayeur faisant place à un sentiment de désespoir, il me dit d'une voix assez ferme « Vous feriez bien de venir, vous aussi, capitaine, avant qu'il ne soit trop tard. Il est là. Maintenant, je connais le secret. La mer seule peut me protéger de cette créature. » Avant que je ne puisse dire un mot ou faire un mouvement pour le retenir, il sauta par-dessus bord, se jeta à l'eau. Je suppose que moi aussi, maintenant, je connais le secret. C'est sans doute ce malheureux devenu fou qui s'est débarrassé de tous les hommes, l'un après l'autre. Et à présent, lui-même a voulu les suivre. Que Dieu me vienne en aide. Comment expliquerai-je de telles horreurs quand j'arriverai au port? Quand j'arriverai au port? Arriverai-je jamais au port? 4 août. Toujours ce brouillard que le lever du soleil ne parvient pas à percer. Si je n'étais pas un marin, je ne saurais même pas ce que c'est que le lever du soleil. Je n'ai osé ni descendre dans la cale, ni quitter le gouvernail. Je suis donc resté ici toute la nuit, et dans l'obscurité, j'ai aperçu la chose. Je l'ai aperçu, lui. Que Dieu me pardonne, mais le second a eu raison de se jeter dans la mer. Il a eu raison de vouloir mourir en homme. On ne peut pas reprocher à un marin de vouloir mourir ainsi. Mais moi, je suis le capitaine et je ne peux abandonner mon bateau. Je saurai déjouer les plans de ce démon, de ce monstre. Quand je sentirai que mes forces diminuent, je me lierai les mains à la roue du gouvernail et j'y lierai aussi ce qu'il n'osera pas toucher. Alors, que le vent soit favorable ou non, je sauverai mon âme et mon bonheur de capitaine. Je me sens plus faible et bientôt, ce sera de nouveau la nuit. S'il vient encore me regarder en plein visage, je n'aurai peut-être pas le temps d'agir. Si nous faisons naufrage, peut-être trouvera-t-on cette bouteille et ceux qui la trouveront comprendront peut-être. Sinon, eh bien, alors que l'on sache que je n'ai pas manqué à mon devoir. Que Dieu et la Sainte Vierge et tous les saints viennent au secours d'une pauvre âme innocente et de bonne volonté. Journal de Mina Murray, 8 août. Lucie a été fort agitée toute la nuit, et moi non plus, je n'ai pas pu dormir. La tempête était terrible, et quand le vent s'engouffrait dans la cheminée, on eût cru entendre le canon. Chose étonnante, Lucie ne s'est pas réveillée, mais à deux reprises, elle s'est levée et habillée. Heureusement, je l'ai entendue chaque fois et je suis parvenue à la déshabiller sans la réveiller et l'ai remise au lit. Ces crises de somnambulisme sont étranges, car aussitôt qu'on l'arrête dans ses mouvements, elle renonce à l'intention qu'elle avait un moment auparavant, si au moins on peut parler d'intention dans ce cas, et elle reprend une vie apparemment normale. Nous nous sommes levées de bonne heure, toutes les deux, et nous sommes descendues au port, curieuses de savoir ce qui s'était passé pendant la nuit. Nous n'y vîmes presque personne. Bien que le soleil brillât de tout son éclat et que le temps fût clair et frais, de grosses vagues encore menaçantes, dont les immenses creux paraissaient très sombres en contraste avec l'écume d'un blanc neigeux qui les surmontait, se précipitaient sauvagement dans le port. Je me réjouis à la pensée que Jonathan n'était pas en mer la nuit dernière. Mais n'est-il pas en mer, vraiment? Est-il à terre? Où est-il? Et comment va-t-il? Je suis tellement inquiète à son sujet. Si seulement je savais ce que je dois faire et si je pouvais faire quelque chose. 10 août. Les funérailles du pauvre capitaine aujourd'hui furent fort émouvantes. Je crois que tous les bateaux, toutes les barques du port étaient rassemblées. Le cercueil fut porté par des officiers de marine depuis la tête Hill Pier jusqu'au cimetière. Lucie m'accompagnait. Nous allâmes nous installer sur notre banc alors que le cortège de bateaux remontait la petite rivière jusqu'au viaduc pour revenir ensuite à la tête Hill Pier. Et de cet endroit de la falaise, nous ne le perdîmes pas un instant de vue. La dépouille du malheureux capitaine fut descendue dans une tombe proche de notre banc, de sorte que, debout sur ce banc, nous pûmes suivre tous les détails de cette funèbre cérémonie. La pauvre Lucie semblait fort émue, comme en proie même à une sorte d'angoisse. À mon avis, les nuits agitées qu'elle passe et les rêves qu'elle doit faire nuisent à sa santé. Mais, chose bizarre, quand je lui parle de cela, elle ne veut pas reconnaître qu'il y a une cause à cette nervosité, ou bien elle prétend qu'elle ne la connaît pas elle-même. Peut-être aujourd'hui son inquiétude est-elle encore plus vive du fait que le pauvre monsieur Swells ait été trouvé mort sur notre banc ce matin, le cou tranché. Il est certain, comme l'a dit le docteur, qu'avant de tomber, une terreur inexplicable l'avait saisi, car l'horreur était encore marquée sur son visage au moment où on l'a relevé. Le malheureux vieillard, n'a-t-il pas vu la mort approcher ? Lucie est si sensible que tout la touche plus profondément que les autres. Pendant l'enterrement, elle a été bouleversée par une chose qui n'avait guère attiré mon attention, bien que j'aime beaucoup moi-même les animaux. Un des hommes qui monte souvent ici pour surveiller les bateaux de pêche avait été, comme d'habitude, suivi par son chien. Pendant le service, le chien ne voulait pas venir près de son maître, qui était près de nous sur le banc. Il restait un peu loin, à aboyer, à hurler. L'homme lui parla d'abord doucement, puis d'un ton ferme, puis avec colère. En vain. L'animal continuait à aboyer de plus belle. Il était en fureur, ses yeux brillaient d'un éclat sauvage et tous ses poils étaient hérissés comme la queue d'un chat qui se bat avec un autre chat. Finalement, l'homme, furieux à son tour, sauta du banc et alla donner un coup de pied au chien, puis le saisit par la peau du cou et le traîna jusqu'à la pierre tombale sur laquelle est posé le banc. À l'instant même où elle toucha la pierre, la pauvre bête se calma mais se mit à trembler de tout son corps. Loin d'essayer de se sauver, elle se coucha à nos pieds et elle paraissait si terrorisée que j'essayais, sans y réussir, de la rassurer. Lucie en avait pitié également, mais elle ne fit aucun geste pour le caresser. Elle fixait sur elle des regards d'angoisse. J'ai bien peur qu'elle n'ait une nature vraiment trop délicate pour supporter tout ce que la vie lui réserve. Quelle nuit va-t-elle encore passer ? Toutes ces choses. Un bateau qui entre dans le port avec un mort au gouvernail, lié à la roue par un chapelet, la longue cérémonie des funérailles, le chien, tantôt furieux, tantôt terrifié. Oui, tout cela est bien fait pour peupler ses rêves. Il serait sans doute souhaitable qu'elle n'aille au lit ce soir que fort fatiguée. Je veux parler d'une fatigue physique. Je vais donc l'emmener faire une longue promenade sur les falaises jusqu'à la baie de Robin Hood, d'où nous faudra encore revenir. Après cela, elle n'aura pas envie, je pense, de se relever cette nuit et de marcher tout endormie.